Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
bienvenue dans l'émission Livres et Amis du 23 décembre 2020. Nous allons vous présenter un livre de Serge Latouche dont le titre est Cornelius Castoriadis et l'autonomie radicale. Je commencerai donc par vous présenter rapidement l'auteur et puis surtout celui qui fait le corps du livre, Cornelius Castoriadis. Serge Latouche est un des dirigeant important du mouvement de la décroissance. Il s'occupe de revues, il fait beaucoup de conférences, il est professeur émérite à l'université d'Orsay. Il est à la fois économiste, philosophe, et surtout philosophe à mon avis. Philosophe d'une drôle de philosophie et homme de science. C'est ainsi que il écrit son livre avec ses trois composantes. En fait, c'est surtout la composante philosophique qui apparaît dans le livre. Et il a un double projet, c'est de réconcilier la décroissance avec ceux qui pensent que c'est retourner à l'âge de pierre. On n'en est pas là, mais enfin, c'est peut-être bien utile quand même. Et enfin, son deuxième projet, c'est d'unir les décroissants sous la bannière de Cornelius Castoriadis, qui ferait un grand fondateur. Et qui, ça permettrait au mouvement de la décroissance de ne pas apparaître comme les écolos, comme des gens un peu dispersés et un peu légers. Serge Latouche a écrit des livres, et j'en citerai deux, assez récents. 2010, c'est Petit traité de la décroissance, et en 2019, pour sortir de la société de consommation, et c'est là bon pour la casse, c'est le titre de son second livre. C'est donc, je répète, en 2019, et il s'est paru au Lien qui libère. Voyons maintenant ce qu'il nous dit dans son livre, dans notamment les deux pages très intéressantes de repères biographiques. 1922, c'est la naissance de Cornelius Castoriadis, et qui est mort, je le dis tout de suite, 22-97. En 1937, il adhère aux jeunesses communistes. Vous voyez, il a 15 ans, hein, c'est un engagement qui est un engagement de jeune homme et qui n'a jamais, au moins l'idée communiste, il ne l'a jamais quitté. En 1942, il rejoint le groupe trotskiste d'Agustinas. Agustinas était le fondateur du Parti communiste grec et il a activement aidé à la constitution de la 4e internationale, c'est l'internationale trotskiste. En 1945, le voilà à Paris et il a pu gagner la France et il est dans un bateau avec d'autres intellectuels grecs et il paraît que les Français s'en moquaient un peu en disant c'est le navire des Grecs, ce bateau-là. Et là, il y avait 120 intellectuels, je retrouve mon chiffre, et ils veulent échapper à la guerre civile, peut-être à la répression aussi, hein. Et il s'inscrit en thèse Et c'est une thèse en philosophie, mais en même temps, il adhère au PCI, Parti communiste international, tendance trotskiste. Avec son ami, il écrit, il faut que je dise qu'il écrit sous des pseudonymes parce qu'il est sans papier, il faut qu'il acquiert la nationalité française, ce qu'il fera en quelques années. Et il se lie d'amitié avec Claude Lefort, et ce Claude Lefort, avec lui, il demande la possibilité de faire un groupe autonome, un groupe libre dans ce mouvement de la 4e internationale. Vous pensez bien que non, ils n'ont pas eu l'autorisation. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que en 1947, il a une fille qui s'appelle Sparta, avec l'ex-compagne de Claude Lefort. Voilà, les amitiés politiques se mélangent avec les aventures amoureuses. Maintenant, on va le voir changer, parce que de 1947 jusqu'à 1970, il travaille comme économiste à l'OCDE, Organisation communautaire pour le développement de l'économie. On peut trouver ça étonnant, mais le fait est qu'il y est, et il reste jusqu'en 1970, où il va aller à l'HSS, l'École des hautes études de sciences sociales. Voilà donc Castoriadis qui a trouvé son... comment dire... qui a trouvé une trajectoire qui lui convient et qui lui procure, je pense, un certain confort intellectuel. 1960, je continue les dates, j'espère que il n'y en a pas trop, mais il fait tellement de choses qu'on est bien obligé de le suivre avec des dates. Et il se marie avec Catherine Ray, et là, il a une seconde fille qui s'appelle Cybèle. Leur liaison dure 3 ans. Bon. 1967, ils fondent le groupe Socialisme et Barbarie, et c'est ce groupe va décider très rapidement il fait dissoudre le groupe Socialiste et Barbarie. 67, à un an de la révolution de 68, ben, il se dissolve. Peut-être c'est une première autodissolution. Bon. 1968, l'auteur ne nous dit pas ce qu'il a fait. Peut-être que Serge Latouche n'a pas non plus beaucoup participé aux événements, mais il publie un livre qu'il écrit avec Edgar Morin et Claude Lefort, qui est une analyse du mouvement de 68. Et il épouse à ce moment-là
Est-ce important?
Non, c'est pas épousé maritalement, c'est épousé les idées. Ah oui, ils font de la brèche. C'est un auteur et c'est la brèche le nom. Pardon, c'est la brèche le nom de l'ouvrage, et qui est une analyse de mai 68, la brèche. 69, avec son épouse, il participe à la formation de ce qu'il appelle le quatrième groupe. 70, il est naturalisé français. 1979, commence à travailler comme psychanalyste. Il y a un tournant, là, c'est net. 75, il publie l'institution imaginaire de la société. Et c'est un livre qui marque la maturité de sa pensée et qui marque un certain tournant avec l'influence de la psychanalyse. 76, Il participe activement à la revue Libre, qu'il contribue à fonder. Alors, avec chaque changement, il y a quelque chose qui apparaît avec un livre. 76, donc, il participe activement à la revue Libre. Et 78 à 99, alors voilà une longue période, ce qu'il fait, c'est 6 volumes, pas moins, qui s'appellent « Les carrefours du labyrinthe ». C'est mystérieux. Qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe ? Probablement, c'est différentes sources d'inspiration. Et 78, troisième mariage à... Non, c'est avec le second qu'il y a une fille qui s'appelle Cybèle. Pourquoi j'ai marqué Cybèle là-dedans ? Et enfin, en 1980, il est nommé, comme je vous l'ai annoncé, professeur à l'ISS, à l'IESS.
Le HESS ?
Quoi ? Ouais. École des autres études de sciences sociales. Et c'est la rupture définitive avec Claude Lefebvre. Et dans cet institut, il est nommé comme s'occupant du développement. Enfin, bon, 97, je le redis, c'est sa mort à Paris le 26 novembre. Donc, un homme à la vie agitée, mais qui, on va le voir, nous introduit dans des notions dont nous n'avons pas l'habitude. Et la première notion, page 65, c'est un texte extrait d'une interview donnée au journal Le Bourde.
Décroissance ou barbarie ?
Voilà. Alors là, c'est Serge Latouche qui résume sa présentation et qui nous donne l'essentiel de ce qu'il pense.
Il ne faut pas oublier que l'énorme succès du capitalisme s'appuie, entre autres, sur une destruction irréversible de ressources biologiques que 3 milliards d'années ont accumulées sur Terre. Il y a là une sorte de barrière contre laquelle on est précipité à toute vitesse. Phénomène d'autant plus angoissant qu'encore une fois, nous courons contre ce bloc de granit qu'est l'impasse écologique. À moins que l'humanité se ressaisisse, elle risque fort alors de se retrouver avec un régime totalitaire. Pour Castoriadis, comme pour les objecteurs de croissance, l'échec d'une sortie positive du productivisme par la réalisation d'une société d'abondance frugale serait tragique. Et s'il n'y a pas un nouveau mouvement, un réveil de projet démocratique, l'écologie peut très bien être intégrée dans une idéologie néo-fasciste. Face à une catastrophe écologique mondiale, par exemple, on voit très bien des régimes autoritaires imposant des restrictions draconiennes à une population affolée et apathique. L'insertion de la composante écologique dans un projet politique démocratique radical est indispensable. Et elle est d'autant plus impérative que la remise en cause des valeurs et des orientations de la société actuelle impliquée par un tel projet est indissociable de la critique de l'imaginaire du développement sur lequel nous vivons. L'histoire est ouverte simultanément sur la stratégie du choc que pratique l'oligarchie mondiale actuelle et sur la pédagogie des catastrophes que nous tentons de mettre en œuvre. La première, théorisée par Naomi Klein dans le livre éponyme, consiste pour les nouveaux maîtres du monde à profiter des catastrophes naturelles ou engendrées par leurs excès pour imposer une fuite en avant dans la logique du système. La gestion de la crise de 2008 est de ce point de vue un cas d'école. La seconde mise sur le sursaut des victimes pour rompre avec le système.
Voilà ce qu'il dit. À noter que Naomi Klein, le titre de son livre, c'est la stratégie du choc, mais elle incrimine les États-Unis, tandis que lui, il incrimine tout le monde entier. Et voilà comment il présente son affaire, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il faut passer par un dévoilement de ce qu'est véritablement le capitalisme et ce que sont véritablement les institutions. Et c'est là qu'on va voir le texte qui est extrait. D'une position politique qu'il a prise et qui montre bien sa rupture et l'unité de son travail. C'est page 75. Tu en es bien là?
Non,
69.
Oui, 75. Sur la question de la représentation politique, Jean-Jacques Rousseau disait que les Anglais au XVIIIe siècle croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent leurs représentants tous les 5 ans. Effectivement, ils sont libres, mais un jour sur 5 ans. En disant cela, Rousseau sous-estimait indûment son cas, parce qu'il est évident que même ce jour sur 5 ans, on n'est pas libre. Pourquoi ? Parce qu'on a à voter pour les candidats présentés par les partis. On ne peut pas voter pour n'importe qui. Et on a à voter à partir de toute une situation réelle fabriquée par le Parlement précédent et qui pose les problèmes dans les termes dans lesquels ces problèmes peuvent être discutés et qui, par là même, impose des solutions, du moins des alternatives de solutions qui ne correspondent presque jamais aux vrais problèmes. Généralement, la représentation signifie l'aliénation de la souveraineté des représentés vers les représentants. Le Parlement n'est pas contrôlé. Il est contrôlé au bout de 5 ans avec une élection, mais la grande majorité du personnel politique est pratiquement inamovible. En France, un peu moins. Ailleurs, beaucoup plus. Aux États-Unis, par exemple, les sénateurs sont en fait des sénateurs à vie. Et cela viendra aussi en France. Pour être élu aux États-Unis, il faut à peu près 4 millions de dollars. Qui vous donne ces 4 millions ? Ce ne sont pas les chômeurs, ce sont les entreprises. Et pourquoi les donnent-elles ? Pour qu'ensuite le sénateur soit d'accord avec le lobby qu'elles forment à Washington pour voter les lois qui les avantagent et ne pas voter les lois qui les désavantagent. Il y a là la voie fatale des sociétés modernes. C'est paru dans Le Monde diplomatique en février 98, de l'autonomie en politique, l'individu privatisé.
On voit à quel point il est... On va allumer la lumière parce que... À quel point il est d'actualité avec ce qu'on discute de la démocratie, de le changement de constitution et de les différences entre la démocratie représentative et la démocratie... Bon, voilà, il a changé. Ce sera mieux. On vient de vous parler de la démocratie participative et de la démocratie représentative. Un autre texte montre bien la position politique et les idées de Poulenzas et surtout l'unité, j'en parlais, l'unité de sa philosophie et de sa position politique. Page 69.
La philosophie n'est pas philosophie si elle n'exprime pas une pensée autonome. Que signifie autonome ? Cela veut dire autos nomos, qui se donne à soi-même sa loi. En philosophie, c'est clair, se donner à soi-même sa loi, cela veut dire qu'on pose des questions et qu'on n'accepte aucune autorité, pas même l'autorité de sa propre pensée antérieure. C'est là d'ailleurs que le bât blesse un peu, parce que les philosophes, presque toujours, construisent des systèmes fermés comme des œufs, voire Spinoza, voire surtout Hegel et même quelque peu Aristote, ou restent attachés à certaines formes qu'ils ont créées et n'arrivent pas à les remettre en question. Il y a peu d'exemples du contraire. Platon en est un. Freud en est un autre dans le domaine de la psychanalyse, bien qu'il n'ait pas été philosophe. L'autonomie dans le domaine de la pensée, c'est l'interrogation illimitée, qui ne s'arrête devant rien et qui se remet elle-même constamment en cause. Cette interrogation n'est pas une interrogation vide. Une interrogation vide ne signifie rien. Pour avoir une interrogation qui fait sens, il faut déjà qu'on ait posé comme provisoirement incontestable un certain nombre de termes. Autrement, il reste un simple point d'interrogation et pas une interrogation philosophique. L'interrogation philosophique est articulée, quitte à revenir sur les termes à partir desquels elle a été articulée. Qu'est-ce que l'autonomie en politique ? Presque toutes les sociétés humaines sont instituées dans l'hétéronomie, c'est-à-dire dans l'absence d'autonomie. Cela veut dire que bien qu'elles créent toutes, elles-mêmes, leurs institutions, elles incorporent dans ces institutions l'idée incontestable pour les membres de la société que cette institution n'est pas œuvre humaine, qu'elle n'a pas été créée par les humains, en tout cas pas par les humains qui sont là en ce moment. Elle a été créée par les esprits, par les ancêtres, par les héros, par les dieux. Mais elle n'est pas œuvre humaine.
Alors, les athées, nous disons que Dieu, c'est une création humaine, elle est née de la frustration apportée par la vie terrestre, et pour qu'on imagine les dieux pour ça. Et lui, c'est amusant de voir l'emploi qu'il fait du mot humain. Elle dit que cette façon de concevoir la création du monde et la justification des pouvoirs, eh ben c'est inhumain. Et en effet, la royauté du droit divin, moi je trouve que c'est contraire à la dignité humaine. Et c'est ainsi qu'on voit qu'il renverse les notions habituelles. Et il va maintenant comparer l'écologie et l'autonomie.
Cette intervention, parlée de 1980, montre bien le souci du courant de Castoriadis avec l'articulation réforme-révolution et l'implication écologique profonde de son projet d'autonomie. À mes yeux, le mouvement écologique est apparu comme un des mouvements qui tendent vers l'autonomie de la société. Et chaque fois que j'ai eu à en parler, ces mouvements dont je parlais tout à l'heure. Chaque fois que j'ai eu à en parler, oralement ou par écrit, je l'ai inclus dans la série de ces mouvements dont je parlais tout à l'heure, excusez-moi. Dans le mouvement écologique, il s'agit en premier lieu de l'autonomie par rapport à un système technico-productif prétendument inévitable ou prétendument optimal. Le système technico-productif qui est là dans la société actuelle. Mais il est absolument certain que le mouvement écologique, par les questions qu'il soulève, dépasse de loin cette question du système technico-productif qui engage potentiellement tout le problème politique et tout le problème social. Je vais m'expliquer et terminer là-dessus. Que le mouvement écologique engage tout le problème politique et tout le problème social, on peut le voir immédiatement à partir d'une question apparemment limitée. J'espère que vous m'excuserez si je vous dis des choses que vous avez dû entendre déjà des dizaines de fois et si je les dis de façon abrupte. La lutte anti-nucléaire, oui, très bien, bravo. Mais est-ce que cela veut dire en même temps lutte anti-électricité ? Si oui, alors il faut le dire tout de suite, fortement et clairement. Et il faut dire aussi, nous sommes contre l'électricité et nous connaissons toutes les implications de ce que nous disons. Pas de sonorisation dans une salle comme celle-ci, mais c'est déjà fait, rire. Pas de téléphone, pas de bloc opératoire en chirurgie. Après tout, Illich affirme que la médecine ne fait qu'augmenter le taux de mortalité. Pas de radio, libres ou pas de magnétophone, pas de disque de Keith Jarrett, comme j'en entendais tout à l'heure dans votre club, etc. Il faut réaliser qu'il n'y a pratiquement aucun objet de la vie moderne qui, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, n'implique l'électricité. Ce rejet total est peut-être acceptable, mais il faut le savoir et il faut le dire. Ou alors, la seule chose qui serait logique, c'est de proposer d'autres sources d'énergie, d'affirmer et de montrer qu'il n'est pas nécessaire de se priver d'électricité si l'on exclut les centrales nucléaires, à condition de réformer l'ensemble du système de production d'énergie de telle sorte que seul entre en jeu des énergies renouvelables. Comme je suis certain que vous connaissez beaucoup plus de choses que moi sur les énergies renouvelables, ce n'est pas la peine que je m'étende sur cette question considérée en elle-même. Mais la question des énergies renouvelables dépasse de loin la question des énergies renouvelables. D'abord, elle implique la totalité de la production, et puis, ou plutôt en même temps, elle implique la totalité de l'organisation sociale. La seule tentative que je connaisse personnellement de prendre en compte sérieusement l'ensemble de la question, c'est le projet ALTER sur lequel travaille en France le mathématicien Philippe Courrèges avec un minuscule groupe de collaborateurs bénévoles. Je dis sérieusement parce que Courrèges a tout de suite vu qu'il ne s'agit pas seulement d'assurer la production d'énergie renouvelable, que cela impliquait la totalité de la production et par conséquent, il s'est attaqué à la construction d'un petit système complet, ou plutôt d'une grande gamme de tels systèmes dépendant chacun des objectifs finaux qu'on se propose. D'une matrice bouclée qui couvre la totalité des entrées et des sorties d'une petite région à peu près autarcique. Mais je dis sérieusement aussi parce que Courrèges a également vu, et il le dit, que ce qui, sur le plan technique et économique, est une solution, sinon simple, au moins faisable, soulève des problèmes politiques et sociaux, il dit sociétaux, immenses. La définition des objectifs finaux de la production, l'acceptation par la communauté d'un état stationnaire, la gestion de l'ensemble, etc. Ici, je peux dire que je me sens en terrain familier, non pas que je possède évidemment la solution, mais parce que ce sont des questions sur lesquelles je réfléchis et je travaille depuis 30 ans et qui deviennent à la fois plus précises et plus claires lorsque l'on donne un soubassement concret à l'idée d'unité sociale autogouvernée et vivant pour une bonne partie sur des ressources locales renouvelables.
Voilà. On voit bien là le souci de Castoriadis de réintégrer la décroissance. Ce mot-là, ce n'est pas un mot de lui, hein, c'est un mot de Serge Latouche, dans le grand courant qui est le courant du développement de l'économie et du développement en général. Il reproche aux décroissants de dire qu'ils ne veulent plus de la croissance, qu'ils ne veulent plus de l'obsolescence programmée, mais ils ne disent pas ce que ça signifie, par exemple, manque d'électricité, ne plus avoir de télévision. Ils ne veulent pas le regarder en face, et lui, ça ne lui fait pas peur de le regarder en face. Et d'autre part aussi, il manifeste bien qu'il faut avoir son autonomie dans ce mouvement. On voit qu'il n'a pas changé, c'est bien le disciple de Castoriadis. Et on va s'occuper maintenant d'économie, écologie, économie, mais avant on met un peu de musique.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerres signoles et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Le chapitre suivant s'intitule, c'est pas vraiment des chapitres, hein, ce sont des paragraphes avec de beaux titres en belles lettres. Le livre est extrêmement bien présenté, d'ailleurs au passage je le dis, et ça va être l'institution imaginaire de l'économie. En économie, on croit savoir ce que c'est la gestion des biens depuis la production jusqu'à la consommation, mais non, là il emploie une autre formule qui serait d'ailleurs probablement influencée par son intérêt pour la psychanalyse. Et l'économie n'est pas ce que nous croyons. Et Castoriadis, qui a introduit cet extrait, dit qu'on a un bon aperçu là de la méthode de Castoriadis. Serge Latouche, oui, vas-y.
L'économie et l'économique sont des significations imaginaires, sociales, centrales, qui ne se réfèrent pas à quelque chose, mais à partir desquelles sont socialement représentées, réfléchies, agies, faites une foule de choses comme économiques. Cela n'a rien à voir avec l'abstraction du théoricien qui séparerait un aspect économique des processus sociaux pour mieux l'étudier. Le théoricien ne pourrait rien séparer dans ce domaine si, à partir d'un certain moment et dans certaines sociétés, la signification économique n'avait émergé et ne s'était implicitement instituée comme importante, d'abord, centrale et décisive ensuite. Cela n'est pas condition empirique, mais condition logique et ontologique de l'abstraction du théoricien. Cette signification économique est monnayée ou convertie, d'une part en une foule de significations référées à des objets concrets, les biens produits, les instruments de production, etc. D'autre part, en une multiplicité de significations abstraites, mais socialement effectives et actives. Ainsi, dans l'économie capitaliste, capital, stock, travail, salaire, revenus, profit, intérêt, sont des significations abstraites, thématisées et explicitées comme telles, par et pour les participants, et dont l'explicitation est condition effective d'opération de cette économie. Mais qu'est-ce qui tient ensemble toutes ces significations et en fait des significations économiques Toutes les tentatives de donner des réponses transhistoriques à cette question aboutissent à des fallaces. Alors, lorsqu'on dit, comme les économistes académiques, qu'il y a économie lorsqu'il s'agit d'atteindre des fins illimitées avec des moyens limités, ce qui concerne aussi bien la technique et par exemple autant l'agronomie que la navigation spatiale, et néglige le fait que l'idée de fin illimitée ne pourrait germer que dans la tête d'un économiste de la période capitaliste. Ou lorsqu'on parle des échanges entre membres de la société, ce qui a permis la floraison des confusions qui ont encore cours sur l'échange de choses, de femmes et de mots. Ou enfin, lorsqu'on parle de production et reproduction de la vie matérielle de la société, comme si l'on savait ce que c'était qu'une vie matérielle de la société, séparable du reste, comme si cette idée elle-même d'une vie matérielle séparé n'était pas un des produits les plus typiques et les plus historiquement datés de l'époque capitaliste. Nous avons déjà insisté sur le fait que la séparation de la sphère économique et du reste des activités sociales, sa constitution en domaine autonome et finalement prédominant, est elle-même un produit historique qui n'apparaît que dans certaines sociétés et en fonction d'un développement complexe.
Voilà comment il critique vigoureusement tout ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'économie ? Il cite un certain nombre de choses et il dit qu'il faut leur donner un autre sens, et il les rétablit dans l'histoire en disant qu'il a fallu la société capitaliste, l'industrialisation, pour que ces mots-là apparaissent, ce qui est, à mon avis, si je puis me permettre, on n'ose pas, par rapport à un grand précurseur, on n'ose pas trop le dire, ce qui me paraît assez fumeux. Parce que l'économie, qui nous a appris ce que c'était, je suis désolé, c'est Marx, c'est pas quelqu'un d'autre. Et alors là, c'est une bonne attaque de tous ceux qui dit-il, séparent la sphère économique d'une autre sphère, et qui sont, selon lui, dans l'erreur la plus totale. Et cela entraîne une réflexion philosophique aussi sur la pensée des Lumières, parce que sa pensée s'inscrit contre la pensée des Lumières, et c'est à la page, tu vas trouver ça à la page 89.
Réflexion sur le développement et la rationalité.
Oui.
Il y a déjà un certain temps que le développement est devenu à la fois un slogan et un thème de l'idéologie officielle et professionnelle, comme aussi des politiques des gouvernements. Mais à peine la nouvelle idéologie était-elle mise en place qu'elle était attaquée de divers côtés. Le système social établi commença d'être critiqué, non pas parce qu'il serait incapable d'assurer la croissance, ni parce qu'il distribuait inéquitablement les fruits de la croissance, critique traditionnelle de la gauche, mais parce qu'il ne se souciait que de la croissance et ne réalisait que de la croissance, une croissance d'un type donné, avec un contenu spécifique entraînant des conséquences humaines et sociales déterminées. Limité à l'origine à l'intérieur d'un cercle très étroit de penseurs politiques et sociaux hétérodoxes, ces critiques se sont largement répandues, en l'espace de quelques années, parmi les jeunes, et ont commencé d'influencer aussi bien les mouvements étudiants des années 60 que le comportement effectif de divers individus et groupes qui décidèrent d'abandonner la course de rats et tentèrent d'établir pour eux-mêmes de nouvelles formes de vie communautaire. De manière de plus en plus insistante, on commença à soulever la question du prix auquel les êtres humains et les collectivités acheter la croissance. Presque simultanément, on découvrait que ce prix comprenait une composante énorme, jusqu'alors passée sous silence, et dont souvent les conséquences ne concernaient pas directement les générations présentes. Il s'agissait de l'amoncellement massif et peut-être irréversible de dommages infligés à la biosphère terrestre, résultant de l'interaction destructrice et cumulative des effets de l'industrialisation. Effet déclenchant des réactions de l'environnement qui restent, au-delà d'un certain point, inconnues et imprévisibles, et qui pourraient éventuellement aboutir à une avalanche catastrophique finale dépassant toute possibilité de contrôle. Depuis l'enfoncement de Venise dans les eaux, jusqu'à la mort peut-être imminente de la Méditerranée, depuis l'eutrophisation des lacs et des fleuves, jusqu'à l'extinction de douzaines d'espèces vivantes, depuis les printemps silencieux jusqu'à la fonte éventuelle des calottes glaciaires des pôles, depuis l'érosion de la grande barrière de corail jusqu'à la multiplication par mille de l'acidité des eaux de pluie, les conséquences effectives ou virtuelles d'une croissance et d'une industrialisation effrénées commençaient à se dessiner immenses. La récente crise de l'énergie et les pénuries de matières premières sont survenus au moment approprié pour rappeler aux hommes qu'ils n'étaient même pas certains qu'ils pourraient continuer longtemps à détruire la Terre.
Alors on ne sait plus si c'est Castoriadis ou Serge Latouche qui parle, parce qu'il parle de la crise de 88, c'est 2088, et en tout cas, voyons que ce texte montre bien sa détermination à entrer a fait entrer de force les préoccupations écologiques dans la grande préoccupation de l'économie, c'est-à-dire de la croissance. Parce que ce qu'on croit, c'est que la croissance, eh bien, il en faut pour que tout le monde ait du travail. Et c'est pas vrai, parce qu'il peut y avoir la croissance et le chômage augmenter quand même, parce que tout dépend de la façon dont on distribue les fruits du travail. Et donc, c'est sous toute réserve que je vous ai lu ce texte qui fait partie des textes choisis de Castoriadis par Serge Latouche, mais ça m'a plutôt l'air d'être du Latouche que du Castoriadis. Étant donné les dates qu'il donne et les événements qu'il parle, et les événements qu'il évoque, on voit bien que c'est de la période actuelle qu'il est question, et avec le souci de la fonte de glace, etc. Bon. Et là, il va revenir.
Maintenant, tu m'as marqué quelque chose, les obstacles au développement, alors, page là, 95.
C'est le passage suivant, les obstacles au développement. Est-ce qu'il y a une introduction de Serge Latouche, là ?
Non.
Alors, ça doit être de lui.
Pendant un certain temps, ces obstacles ont été vus comme purement économiques et de caractère négatif. L'absence de croissance était due à l'absence de croissance, ce qui, pour un économiste, n'est pas une tautologie, puisque la croissance est un processus autocatalytique. Il suffit qu'un pays entre dans la croissance pour qu'il continue de croître de plus en plus rapidement. Par conséquent, on posait que des injections de capital étranger et la création de pôles de développement étaient les conditions nécessaires et suffisantes pour amener les pays moins développés à l'étape du décollage. En d'autres termes, l'essentiel était d'importer et d'installer des machines. Assez rapidement, on a été obligé de découvrir que ce sont les hommes qui font marcher les machines et que ces hommes doivent posséder les qualifications appropriées. Alors, l'assistance technique, la formation technique et l'acquisition de qualifications professionnelles devinrent à la mode. Mais à la fin, on a dû se rendre compte que les machines et les ouvriers qualifiés ne suffisent pas et que beaucoup d'autres choses manquaient. Les gens n'étaient pas partout et toujours prêts et capables à renoncer à ce qu'ils avaient été pour devenir de simples rouages de processus d'accumulation. Même lorsque étreints par la famine, ils auraient dû le faire. Quelque chose n'allait pas dans les pays en voie de développement. Ils étaient pleins d'hommes qui, eux, n'étaient pas en voie de développement.
Et voilà, comme c'est bien dit, la vision du monde de Serge Latouche et la vision du monde des croissants. C'est le moment de faire un peu un bilan de tout ce qu'on a entendu et lu. Première remarque à faire, c'est qu'il s'est à un moment donné converti à la psychanalyse et il l'a même pratiqué puisqu'il avait un cabinet. Et il n'y en a pas un mot là-dedans, parce qu'évidemment, ce qui intéresse Serge Latouche, c'est l'autonomie radicale. Posons-nous quelques questions sur ce sens de radical. Je ne l'ai pas retrouvé, mais on avait lu un livre d'une dame qui était professeure dans une université et qui parlait d'autonomie radicale elle aussi, mais l'autre pour elle c'était plutôt le djihadiste, hein. Et elle semblait à la fin du livre attirée vers le fait d'aller vers l'autre. C'est pas le cas de Serge Latouche, il est bien persuadé qu'il a raison et il a beau dire que il faut être libre. Eh bien, il est en tout cas enserré dans ses filets comme les philosophes. La seconde réflexion que je fais, c'est de remarquer sa méfiance et aussi sa méconnaissance du marxisme. Il en dit n'importe quoi. Et on voit que il montre qu'il l'a lu, mais il montre qu'il n'a rien compris. Et c'est pareil pour le féminisme. Dans le chapitre sur la rationalité, il expédie le marxisme et il expédie le féminisme en disant que, oh là là, il y a trop de mouvements qui sont, comment dire, opposés les uns aux autres et que ça ne peut rien faire de bon, tandis que eux, les décroissants, eux, ils ont une théorie qui prennent nos castoriadis. Troisième remarque, il y a un mystère. Il dit qu'il y a un moment, castoriadis collaborait à la revue, au mouvement Maos. Et alors j'ai cherché, et vous voyez quelqu'un, Marcel Maos, qui ne ressemble pas du tout à castoriadis. J'ai encore cherché, et en tout cas, le mouvement s'appelait Mouvement anti-utilitariste et social et scientifique. Ça, c'est un mystère que je vous livre à la fin de ma lecture. Si quelqu'un sait ce que c'est que le Maos, qu'il nous le dise. Enfin, on note un trajet exceptionnel chez ce castoriadis, parce que quand même, il est resté bien, comment dire, il est resté bien communiste jusqu'au bout. Bon, et on a l'habitude de gens qui passent du socialisme au communisme ou inversement, et aussi ce va-et-vient entre la gauche classique et la gauche dite radicale. Mais il n'existe pas d'autres mouvements chez lui. Pas question d'aller du côté de la droite. Mais ce qui est terrible dans ce livre, c'est que sa méconnaissance du marxisme l'amène à ne pas voir le monde tel qu'il est. On s'attendrait d'un économiste qui nous parle un peu des entreprises et de la circulation des marchandises, mais rien du tout. Hein. Il est vraiment philosophe, et comme disait, il y a un article du Monde qui disait que sa philosophie était fumeuse. Tu as envie de dire quelque chose? On va terminer cette émission avec la lecture de trois morceaux particulièrement significatifs de Castoriadis.
Le développement comme signification imaginaire sociale.
On avait déjà vu l'économie, maintenant c'est le développement.
Qu'est-ce que le développement? Un organisme se développe lorsqu'il progresse vers sa maturité biologique. Nous développons une idée lorsque nous explicitons autant que possible ce que nous pensons qu'on tient implicitement. En bref, le développement est le processus de la réalisation du virtuel, du passage de la... Excusez-moi, j'arrive pas à lire. Du passage de la dynamis à l'energia, de la potentia à l'actus.
Oh là là.
Cela implique évidemment qu'il y a une energia et un actus pouvant être déterminés, définis, fixés. Qu'il y a une norme appartenant à l'essence de ce qui se développe, ou, comme aurait dit Aristote, que cette essence est le devenir conforme à une norme définie par une forme finale, l'entelecheia. Avec la religion et la théologie judéo-chrétienne, l'idée de l'illimité, du sans fin, de l'infini, acquiert un signe positif, mais cela reste, pour ainsi dire, sans pertinence sociale et historique pendant plus de 10 siècles. Le Dieu infini est ailleurs, ce monde est fini, il y a pour chaque être une norme intrinsèque correspondant à sa nature telle qu'elle a été déterminée par Dieu. Le changement survient lorsque l'infini envahit ce monde, et il serait risible de comprimer ici en quelques lignes la masse immense des faits historiques bien connus, et moins bien connus qu'on ne le croit, concernant tant de pays et tant de siècles. J'essaie seulement d'en rassembler quelques-uns dans une perspective particulière, en éliminant les explications justifications rationnelles de leur succession que l'on fournit habituellement, explications et justifications qui sont bien entendu une auto-rationalisation du rationalisme occidental, tendant à prouver qu'il existe des raisons rationnelles expliquant et justifiant le triomphe de la variété de raisons exhibées en Occident. Ce qui importe ici est la coïncidence et la convergence que l'on constate à partir, disons, du XIVe siècle entre la naissance et l'expansion de la bourgeoisie, l'intérêt obsédant et croissant porté aux inventions et aux découvertes, l'effondrement progressif de la représentation médiévale du monde et de la société, la réforme, le passage du monde clos à l'univers infini, la mathématisation des sciences, la perspective d'un progrès indéfini de la connaissance et l'idée que l'usage propre de la raison est la condition nécessaire et suffisante pour que nous devenions maîtres et possesseurs de la nature. Descartes. Un autre passage, page 108.
On voit à quel point il rejette la philosophie des Lumières et une certaine idée du développement qui est celle de la philosophie des Lumières.
Quel parallèle pourrait-on établir entre le recul du marxisme et des idéologies et l'essor de l'écologie politique ?
Ça, c'est la question qu'on lui pose.
Le rapport est évidemment complexe. Il faut d'abord voir que Marx participe déjà intégralement de l'imaginaire capitaliste. Pour lui, comme pour l'idéologie dominante de son époque, tout dépend de l'augmentation des forces productives. Lorsque la production aura atteint un niveau suffisamment élevé, on pourra parler d'une société vraiment libre, vraiment égale, etc. On ne trouve chez Marx aucune critique de la technique capitaliste, que ce soit comme technique de production ou comme type et nature des produits fabriqués. La technique capitaliste et ses produits font pour lui partie intégrante du processus de développement humain. Pas davantage ne critique-t-il l'organisation du processus de travail dans l'usine. Il en critique certes quelques aspects excessifs, mais cette organisation, en tant que telle, lui paraît une réalisation de la rationalité tout court. L'essentiel de ses critiques porte sur l'utilisation qui est faite de cette technique et de cette organisation. Elle profite uniquement au capital, au lieu de profiter à l'humanité entière. Il ne voit pas qu'il y a une critique interne à faire de la technique et de l'organisation de la production capitaliste.
Il est vrai que Marx est un héritier des Lumières et qu'il est forcément cadré par ça, mais il oublie complètement que Marx a fait la remarque que le capitalisme abîmait la terre et que c'était très grave.
Un dernier passage, une interrogation sans fin. Je commencerai par une remarque plus générale. La leçon principale que nous pouvons tirer de l'expérience du siècle dernier, du destin du marxisme, de l'évolution du mouvement ouvrier, qui n'est du reste nullement original, est que l'histoire est le domaine du risque et de la tragédie. Les gens ont l'illusion de pouvoir en sortir et l'expriment par cette demande. Produisez-moi un système institutionnel qui garantira que cela ne tournera jamais mal. Démontrez-moi qu'une révolution ne dégénérera jamais ou que tel mouvement ne sera jamais récupéré par le régime existant. Mais formuler cette exigence, c'est rester dans la mystification la plus complète. C'est croire qu'il pourrait y avoir des dispositions sur le papier qui pourrait, indépendamment de l'activité effective des hommes et des femmes dans la société, assurer un avenir paisible, où la liberté et la justice. C'est de la même chose lorsque l'on cherche, c'est l'illusion marxienne, dans l'histoire, un facteur qui serait positif et rien que positif, c'est-à-dire dans la dialectique marxienne, négatif et rien que négatif, donc jamais récupérable, jamais positivable par le système institué. Cette position, assignée par Marx au prolétariat, continue souvent à dominer l'esprit des gens, soit positivement, ainsi certaines féministes semblent dire qu'il y a dans le mouvement des femmes une radicalité inentamable et incorruptible, soit négativement, lorsque l'on dit « pour croire dans tel mouvement », il faudrait nous montrer qu'il est par nature irrécupérable.
Il reprend la dialectique du maître de l'esclave. Et est-ce que j'ai le temps de te faire lire une dernière question? C'est la question de l'unification. Est-ce que l'unification est possible?
Je ne sais pas si c'est ça. Tu as marqué quelque chose, page 120. Je reviens maintenant au premier volet de votre question. Ces mouvements peuvent-ils être unifiés? C'est évident au niveau abstrait qu'ils doivent être unifiés, et le fait très important est qu'ils ne le sont pas, et cela n'est pas un hasard. Si le mouvement des femmes ou le mouvement écologique se rebiffent tellement devant ce qu'ils appelleraient probablement leur politisation, c'est qu'il y a dans la société contemporaine une expérience de la dégénérescence des organisations politiques qui va très loin. Il ne s'agit pas seulement de leur dégénérescence organisationnelle, de leur bureaucratisation, mais aussi de leur pratique, de ce que les organisations politiques n'ont plus rien à voir avec la vraie politique, que leur seule préoccupation est la pénétration ou la conquête de l'appareil d'État. L'impossibilité actuelle d'unification de ces divers mouvements traduit un problème infiniment plus général et plus lourd, celui de l'activité politique dans la société contemporaine et de son organisation. Un texte de Guillaume Mallory. On peut le voir avec ce qui se passe dans l'extrême gauche française ou avec les écologistes qui hésitent à se constituer comme un parti. Cornelius Castoriadis. On ne demande pas aux écologistes de se constituer comme un parti. On leur demande de voir clairement que leurs positions mettent en cause, à juste titre, l'ensemble de la civilisation contemporaine et que ce qui leur tient à cœur n'est possible qu'au prix d'une transformation radicale de la société. Extrait tiré du livre de Une interrogation sans fin, entretien avec Guillaume Mallory, Esprit, 1979.
Voilà. On voit là combien il déteste l'idée de parti, et avec ce qui s'est passé à Nancy, avec le printemps marseillais, c'en est une bonne illustration.
Au revoir. Ce fut ardu aujourd'hui.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.